Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et comme vous le savez, bien évidemment, 2022 touche presque à sa fin. Aussi, le moment est-il venu de vous proposer une rétrospective des Wagon Livre de cette année. Une riche collection d'émissions recensées dont nous allons aujourd'hui vous offrir une sélection en vous proposant quelques extraits d'entretiens avec des écrivains qui furent les invités de votre émission littéraire. Nous réentendrons avec plaisir Daniel Picouli évoquer sa mère, originaire de Varennes-Vauzelles dans la Nièvre, une femme pieuse qui lui fera respecter et lui apprendra l'admiration des églises. Avec Éric Nehoff, nous reviendrons sur les prix littéraires en France et notamment le prix Goncourt. Nous aurons aussi la chance de réentendre une chanteuse. Il s'agira d'Olivia Ruiz pour son deuxième roman dans lequel il était beaucoup question de corrida. Et nous ouvrons cette émission avec une journaliste politique et chroniqueuse, Catherine Ney, que nous avions rencontrée à Dijon fin décembre 2021 à l'occasion de la parution du tome 2 de ses mémoires intitulé « Tu le sais bien, le temps passe, souvenirs, souvenirs » aux éditions Bouquin. Ce livre couvre les années 1995-2017, à savoir donc de l'élection de Jacques Chirac à la première élection d'Emmanuel Macron, près de 30 ans de vie politique et journalistique, mais aussi personnelle, racontée avec le même sens du trait, de la formule incisive, la même intensité romanesque qui font de Catherine Ney une observatrice et une narratrice hors pair, souvent mordante et toujours savoureuse. Catherine Ney.
Quand on prend de l'âge, vous savez, au début, le premier tome, et encore je raconte dans mon premier tome ce désastre familial, ce chagrin fou de la perte d'un frère à 23 ans qui nous avait dévastés. Et puis après, mais voilà, les années passent et pendant les années que je raconte, ces 25-là sont partis, mon père, mon frère aîné, puis mon meilleur ami, je le dis chronologiquement, puis ma mère et enfin mon mari en juillet 2020, donc ce sont c'est des choses que je raconte parce que même quand vous voyez, il y avait un moment où dans mes souvenirs, bon, j'ai beaucoup de cahiers, j'ai fait beaucoup d'éditos, mis beaucoup de choses vues, mais je me souviens dans les années 97, j'avais un blanc au moment d'écrire, je me disais c'est bizarre, et puis j'ai dit mais bien sûr, c'était les moments de chagrin fou, parce que en 97 et en 98, presque jour pour jour, j'ai perdu mon frère et mon père et mon frère, vous voyez. Donc, mais je crois que c'est ce qui arrive à tout le monde. Et quand j'ai amené mon père et ma mère pour la première fois, pour une durée qui devait être courte, c'est-à-dire l'été dans une maison de retraite, mais j'ai compris ce qu'était que voilà, mettre ses parents dans une maison de retraite. Et voilà, c'est des...
Alors quand vous écrivez « Je croise aux forces de l'esprit », oui. Catherine Ney, est-ce que je peux vous demander de développer un petit peu?
C'est-à-dire aux forces de l'esprit, c'est-à-dire que les gens que vous aimez s'en vont, mais si vous les portez en vous, si vous prolongez dans votre cœur le dialogue avec eux, ben vous avez l'impression que peut-être sans vous répondre, ils maintiennent une présence et qu'ils sont toujours là. Voilà ce que
d'accord.
ça veut dire.
Est-il vrai, c'est amusant cette histoire de marron que vous avez reçu sur la tête alors que vous êtes un tout petit bébé dans un landau. C'est amusant cette anecdote.
Oui, oui, oui. Je raconte que lorsque j'ai eu la chance d'avoir une mère extraordinairement aimante, je veux dire, compréhensible pour ses enfants qui nous a élevés avec énormément de douceur de fermeté douce, vous voyez. Alors quand je raconte, quand j'étais malade, voilà, où elle se dévouait à ses enfants, et on était son préféré quand on avait la grippe, voilà, ou une angine, bon, ben j'exigeais de faire ma convalescence dans son lit à sa place pendant le jour, et elle me donnait un tiroir de son armoire dans lequel voilà, il y avait tous les trésors que je trouvais formidables, il y avait des petites boîtes, des médailles, enfin des tas de choses, et un marron, bon. Et elle me racontait que c'était un marron que j'avais reçu sur la tête quand j'étais bébé et que j'avais une bosse, j'avais beaucoup pleuré.
Lancé par un gamin qui se trouvait...
Par un gamin qui ne m'avait pas visé spécialement, mais elle était tombée sur moi et que j'avais beaucoup pleuré. Et alors elle le gardait. Et puis moi, quand j'avais 5-6 ans, je voulais absolument qu'elle me raconte l'histoire pour m'assurer qu'elle avait eu beaucoup de chagrin et que ça avait été un événement important dans sa vie. Voilà, mais c'est... Vous voyez, c'est venu comme ça sous la plume quand j'ai parlé de ma mère sur... voilà, mais c'est les détails d'une vie qui font aussi les souvenirs. Et...
Avant que de parler de Nicolas Sarkozy, pour lequel vous ne cachez pas une vraie admiration.
C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, je l'ai rencontré lorsqu'il a fait son premier discours en 1975, vous voyez, donc, et c'était aux Assises de Lille, de Nice. C'était après un discours de Michel Debré qui parlait toujours pendant une heure et demie et qui était très tonitruant, qui annonçait tous les malheurs qui pourraient arriver à la France, surtout s'il n'était pas au gouvernement, et donc les militants adoraient, voilà. Mais après un discours, l'assistance était là, c'est n'avait qu'une envie, c'est un peu aller respirer, boire une bière, se dégourdir les gens. Et donc c'était des moments creux qu'il fallait combler, et on faisait monter des jeunes, vous voyez, à qui on donnait 10 minutes. Et Nicolas Sarkozy, qui avait été repéré par Pasqua alors qu'il était militant depuis un an, mais il s'était déjà fait remarquer à la permanence par son entrain, par... Son désir de militer, de faire venir des jeunes, alors que vous voyez, entre 1974-1975, alors que Giscard était élu, les gaullistes étaient plutôt en perte de vitesse. Et donc, on lui avait demandé de parler, et je m'en souviens, alors que tout le monde se levait, il a pris le micro, et tout d'un, toute la salle s'est rassise, parce qu'il avait un talent de saisir la salle, de dire des choses qui, voilà. Alors je me suis pas dit, tiens, c'est un futur président de la République, mais je me dis, tiens, celui-là, il a vraiment du talent. Et puis après, je l'ai suivi, enfin, plus ou moins de près, j'ai vu qu'à 28 ans, il était maire de Neuilly, dans des circonstances particulières, mais enfin, c'est parce que depuis 7 ans qu'il était au conseil municipal, il s'était fait remarquer par sa disponibilité, son travail, sa gentillesse, sa manière de traiter avec courtoisie les anciens. Et donc, après la mort d'Achille Peretti, qui est mort 3 mois après cette 5e ou 6e réélection, ben c'est lui qui a été élu, parce que tout le monde le connaissait, alors que Charles Pasqua avait été inscrit sur la liste que 3 ou 4 mois avant l'élection, parce qu'il venait juste d'habiter Neuilly, vous voyez, donc, et le conseil municipal ne voulait pas de Pasqua. Donc, il a été élu contre l'avis de Jacques Chirac, qui a essayé de le dissuader, il a dit non. Après, il a été élu député, toujours contre l'avis de Chirac. Donc, il s'est vraiment forgé lui-même, vous voyez, sa capacité à franchir l'échelon du pouvoir. Mais... sa force, c'est que ce talent, cette imagination, Chirac s'est beaucoup servi de lui, parce que pour préparer les réunions et puis même sa campagne, il était un peu l'apporteur d'idées. Donc Jacques Chirac comptait sur lui c'était le meilleur employé, si je veux dire, entre guillemets. Bon. Et puis, Nicolas Sarkozy, après l'échec de 88, a demandé à Édouard Balladur à travailler avec lui, hein, qui avait été ministre d'État, qui avait fait les privatisations, pensant qu'auprès de lui, il apprendrait quelque chose. C'est-à-dire qu'avec Chirac, il apportait des idées. Avec Balladur, il a eu l'impression que Balladur, au contraire, lui apportait une réflexion et le considérait. Voilà, il y avait un échange avec lui. Et puis il a bien vu que comme il allait les élections seraient gagnées en 93, qu'il serait Premier ministre, Ben, lui, il espérait être ministre, ce qu'il a été, puisqu'il avait même trois... Il était porte-parole, ministre du budget, puis il avait succédé à... J'ai oublié son nom, qui était pris dans une affaire, le ministre de la Communication. Et donc, à un moment, il a fallu choisir. Et il a choisi Balladur, parce que les sondages étaient tels qu'il pensait qu'il serait élu en 95 et que ça ne serait pas Chirac. Alors, mais Chirac ne le lui a pas pardonné. Alors, c'est parce que, alors qu'il est venu lui dire... Il lui a dit, ben non, je choisis Balladur. Mais pour Chirac, alors bien sûr, qui avait fait entrer Sarkozy dans son intimité, il était très proche de Claude, enfin tout le monde comptait sur lui. Et quand il a quitté Chirac, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de leader pour organiser ce petit groupe. Mais Chirac lui en a voulu parce que c'était presque une blessure en fait, d'amitié, mais surtout d'amour propre. Parce que Sarkozy lui signifiait que dans le fond, il trouvait que Balladur était plus capable que lui. Il l'admirait plus intellectuellement que lui. Et ça, c'est impardonnable.
Catherine Ney, dans un extrait d'un wagon-livre diffusé courant janvier 2022 sur l'antenne de Radion, cet entretien avait été enregistré à Dijon fin décembre 2021, alors que la journaliste politique était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Je rappelle le titre du tome 2 des mémoires de Catherine Ney, paru aux éditions Bouquin. Tu le sais bien, le temps passe, souvenir, souvenir, wagon livre sur Radion, votre émission littéraire jusqu'à midi. On marque une première virgule musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette rétrospective des wagons livres de l'année 2022.
Tu sais, je suis pas malheureux, sentimental on peut le dire, un peu de buée dans les yeux, à chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre?
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine qu'une vie facile.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile. Puis qu'on vivra vieux. Regarde, le soleil brille, on est tranquille. Ma main dans tes cheveux. Ma main dans tes cheveux.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Je vous propose cette fois de réentendre un extrait d'un wagon-livre diffusé le 29 janvier 2022 sur l'antenne de Radion avec le romancier Daniel Picouli pour son roman « Les larmes du vin » paru aux éditions Albin Michel. Daniel Picouli est né à la clinique de Villemomble dans le 93, le 21 octobre 1948. Il est le 11e enfant d'une fratrie de 13 enfants. Il revient d'ailleurs dans l'extrait que vous allez entendre sur sa maman Paulette, morvandiote de Varennes-Vauzelle dans la Nièvre. Et il évoquait aussi Roger, son père chaudronnier à Air France, qui l'accompagnait parfois dans les bistrots. Les larmes du vin, le roman de Daniel Picouli, est un roman festif qui rappelle que le vin accompagne les moments heureux des grandes occasions. Et son texte est un éloge de la modération, invitant à savourer le vin et à le respecter lors de moments privilégiés. Je cite Daniel Picouli, « Le vin est plein d'histoires, elles écrivent un roman personnel, à chacun de l'écrire, mais aussi un roman national. » Je vous propose d'entendre Daniel Picouli évoquer sa pieuse maman. C'est un wagon-livre diffusé le 29 janvier 2022. Daniel Picouli.
Ma maman, pendant les vacances, puisqu'on se promenait un petit peu partout en vacances, on faisait du camping sauvage dans les années 60, ma mère nous arrêtait dans toutes les églises. C'est pas au hasard où telle église, elle n'avait pas choisi, elle n'avait pas coché. Il y avait un clocher, il y avait un...
On y allait. Très croyante.
Oui, très très croyante, ma maman. Et surtout, elle avait une sorte de piété, un sens du sacré. Elle ne nous forçait pas, elle n'en parlait pas souvent. Mais bien sûr, il y avait, moi je l'ai raconté une fois, il y avait une Sainte Vierge fluorescente posée sur la télévision. Toute mon enfance, j'ai essayé de savoir qui s'éteignait le dernier quand il y avait un petit point lumineux. Ou la Sainte Vierge, ou le point lumineux de la télévision. Et j'étais, bien sûr, et il y avait dans notre buffet, comme mon père est de Tarbes, Lourdes, n'est pas très 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 loin en tout cas, on avait une bouteille d'eau bénite, toujours, ça a toujours été ça, et moi je suis le mécréant de la famille, puisque j'ai été quand même exclu du catéchisme, à cause des histoires de burette, justement.
Évaporée. Avec ce fameux curé Di Stefano, oui, Di Stefano qui a réellement existé.
Absolument, bah oui, on jouait plus au football qu'on ne faisait de caté, on faisait du cinéma, il nous projetait des Laurel et Hardy, et on jouait au foot, et on buvait du chocolat à la cannelle. Ça peut créer des vocations, vous savez.
Alors, magnifique d'ailleurs ce curé Di Stefano, puisqu'il se proclame prima des Gaules. Oui, Gaules, G-O-A-L-S.
Absolument, absolument. Il était vraiment quelqu'un qui, je pense, comme s'il avait embrassé la carrière, si je puis dire, parce qu'il n'a pas pu être un champion du monde de football comme moi, quoi. Voilà.
Alors, au début de notre échange, vous avez dit que le vin relevait un peu aussi du sacré. Bien pour sûr. Les spécialistes. Paulette avait le sens du sacré. Daniel, aujourd'hui, vous l'avez, ce sens du sacré ?
Ah oui, moi je suis... Ah oui.
Et sous quelle forme ?
Bah d'abord, déjà, je vais toujours dans les églises. C'est-à-dire que moi, j'ai le bonheur d'habiter à Paris, je vais à Saint-Sulpice très régulièrement. J'ai toutes les bougies que j'ai mises m'ont ruiné parce que je dois les payer. Ma maman m'a bien dit, parce que j'avais, paraît-il, la tendance, quand j'étais jeune, à allumer des bougies dans les églises sans les payer. Est-ce que ma mère m'a grondé une fois, et depuis... Non, c'est... Pour moi, le sens du sacré est complètement indépendant du religieux. Le sacré, c'est mettre du sens là où il n'y en a pas forcément, dans un geste, dans une pensée, dans la mémoire, dans des lieux. Et ça, c'est quelque chose que les parents m'ont transmis. J'ai pas fait le catéchisme parce que tout le monde le faisait à cette époque-là. Hein. Ce qui fait que je n'ai pas de montre, parce que je n'ai pas eu la fameuse montre qu'on avait quand on faisait notre communion à l'époque. Mais le sens du sacré, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des choses éminemment respectables, qu'il y a des endroits qui le sont encore plus, et que ces endroits sont propices pour, j'allais dire, transmettre les pensées les plus profondes que vous avez pour les autres. Moi, mes parents ont disparu, j'ai beaucoup de mes frères et sœurs qui sont disparus, beaucoup autour de moi, et je trouve que ce sont les meilleurs lieux pour penser à eux, les églises. et j'y vais, régulièrement. Et quand je suis dans une ville, je vais dans l'église, locale. Je suis allé à Avignon il y a quelques jours et je suis allé dans une église mettre la bougie. Et je mets les 2 euros, maman, je tiens à lui dire, parce qu'elle quand même écoute là. Je lui dis, je mets les 2 euros.
Bon, Daniel, lors de votre prochain passage à Vézelay, vous venez me faire signe.
Ah oui, absolument.
Alors, revenons justement à l'amant, oui, comme vous l'appelez, oui, dans le roman, l'amant. Dans le ventre de votre maman, oui, Paulette, avec ses beaux yeux bleus, oui, et dans le ventre, le petit Daniel, il est déjà imbibé d'une certaine manière de tous les propos des adultes. Et vous dites, en parlant du ventre de Paulette, c'est de l'eau de vie.
Oui, c'est de l'eau, oui, bien sûr, mais c'est un mot et en même temps c'est une réalité. On baigne quand on est enfant dans une eau de vie, c'est de votre maman, et c'est la première eau de vie, et donc il reste forcément quelque chose de ce bain originel, et c'est vrai que toutes les conversations, et je trouve j'avais presque dit on n'étudie pas assez, alors que j'ai entendu il y a pas très très longtemps justement une émission à France Culture sur ce qu'entendait un fœtus dans le ventre de sa maman. Et il y a des perceptions beaucoup plus subtiles qu'on l'imagine, comme curieusement, le fœtus capte plus les graves, ce qui fait qu'il reconnaît la voix de son père, paraît-il. Et bien sûr, d'autres voix, d'autres bruits. Et donc, j'imagine que cet enfant a une acuité, en tout cas auditive, peut-être un peu supérieure à la moyenne, parce qu'il entend toutes les conversations des commères qui sont autour. Ma mère était entourée de copines qui venaient, et comme beaucoup de femmes enceintes, qui discutent de ce qu'il en est, de ce bébé à naître, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Et moi, je capte tout ça. Donc, j'ai une culture phénoménale. Je suis anthropologue, je suis sociologue, je suis politologue, tout simplement en écoutant. Et en plus, ma mère écoutait la radio. Donc, moi, je suis un enfant de Radio Luxembourg, de l'époque. Donc, c'est tout ça qui, c'est bien sûr de l'ordre d'une fiction, bien évidemment. Ce qui fait que je sais déjà presque tout de ce qui va m'arriver, parce qu'en plus ma maman a une copine qui a une tendance à voir de l'astrologie partout et du vin partout, Adrienne, voilà, qui a une langue verte formidable, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression d'avoir été nourri à la langue d'Adrienne. Et c'est cette femme, donc, voilà, dit en gros, il y a une théorie qui dit que tout ce que l'on entend et tout ce qui se passe dans le monde pendant ces 9 mois aura une répercussion dans toute ma vie un jour. Donc, j'écoute les informations, pas seulement pour être informé sur l'époque, mais pour savoir ce qui va m'arriver plus tard. Pour savoir ce que la mort de Gandhi, la création d'Israël, les grèves auront comme traduction. J'aime cette idée-là. D'être né avant ma naissance.
Un extrait d'un wagon-livre diffusé le 29 janvier 2022 avec Daniel Picouli pour son roman Les larmes du vin, paru aux éditions Albin Michel. Daniel Picouli qui, dans ce roman, déroule l'histoire familiale confrontée à celle du vin qui marqua les moments forts de la famille. Notre wagon-livre, bien sûr, continue le temps d'une nouvelle pause musicale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Silence, offense, y a des torrents dans les rues de nos enfances, mais ça ne se voit pas. Tarder, puis parler, casser les murs des prisons qu'on se fait, s'évader vers soi. Improviser, savoir tenir, est-on jamais préparé au pire? Le jour d'après, fleurir. Je m'en remets à nos lendemains, on renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains. Tiens, à nos lendemains. n'était que de passage. Mais il reviendra. Attendre, comprendre ce que la vie nous veut quand vient décembre et qu'on ne l'attendait pas. Se relever, savoir grandir, est-on jamais préparé au pire? Le jour d'après, fleurir, je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains, tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le 15 février 2022, à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne, au Grand Hôtel de la Cloche, je rencontrais Éric Neuhoff qui venait de faire paraître un roman intitulé « Rentrée littéraire », un roman nostalgique qui est aussi une histoire d'amour chez un couple d'éditeurs. Et Éric Neuhoff abordait alors les difficultés du monde de l'édition, un monde qui a beaucoup changé, et nous abordions également la difficulté de faire paraître un second roman quand on avait été couronné par le prix Goncourt à un premier roman. Et je vous propose d'entendre les développements et les explications d'Éric Neuhoff. Il s'agit d'un wagon livre diffusé fin février 2022.
Aujourd'hui, il est très difficile, l'auteur maudit, ça je n'y crois plus beaucoup. Les éditeurs sont tellement en quête de talent que quelqu'un qui a un petit quelque chose est forcé de trouver un éditeur.
Mais publier sans, j'allais dire, toute la machinerie de promotion derrière, est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul quand on est écrivain et qu'il n'y a pas de retour dans les médias? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court un peu sur les plateaux de n'importe quelle émission. Ouais. Bon, les émissions littéraires, à la télévision, il n'y a plus grand-chose.
Non. Vous voyez, parce qu'à l'époque, il y avait Apostrophe. Moi, je me souviens quand j'ai su que mon premier roman allait être publié, mes amis ne m'ont pas demandé de quoi ça parlait du tout. C'était « Ah bah alors, tu vas passer chez Pivot ». C'était l'évidence. Sinon, on n'existait pas. Et le fait est que j'y suis passé, mais comme j'étais très très mauvais, quand j'étais invité, je vendais encore moins de livres que quand je n'y allais pas. Mais l'émission, quand on revoit des épisodes, était quand même fabuleuse. Pivot avait un sens là, de la sympathie. C'était pas lui la vedette, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui à la télévision. C'était pas « quelle chance vous avez de me rencontrer », mais il savait faire parler les gens qui étaient timides, calmer ceux qui étaient trop bavards. Il y avait vraiment quelque chose qui rendait le livre accessible. Les libraires et les grands magasins avaient leur table avec les piles des auteurs le lendemain, le samedi. C'était quelque chose d'énorme. Les gens ne sortaient pas le vendredi pour regarder ça. Et non, mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de livres pour des raisons X ou Y, entre autres ce système des offices. Enfin, on ne va pas être trop technique, mais il ne faut pas oublier que c'est de la cavalerie permanente et que les libraires servent de banquiers aux éditeurs. C'est-à-dire que les libraires achètent les livres et les renvois se font rembourser. Donc tout ça, cette pléthore de publications, en gros, ça sert à payer le salaire de la standardiste de la maison d'édition. Et un auteur méconnu, passera sans doute à travers les mailles, enfin sera publié, mais n'aura pas l'exposition médiatique dont vous parliez. Encore que, un des gros changements, je crois, aujourd'hui, c'est qu'il est plus facile de publier un premier roman qu'un troisième ou un quatrième, à mon avis.
Oui. C'est très difficile de réitérer, par exemple, le succès d'un premier roman.
Ouais, ou même l'insuccès. C'est que, comme maintenant les éditeurs ont tous les chiffres de vente des auteurs, l'auteur avec des tirages moyens, au bout d'un moment, son éditeur le laissera tomber, au lieu de poursuivre, d'attendre que...
Mais je me rappelle Michel Host, ouais, qui a été un prix Goncourt, ouais, a eu énormément de mal, après son premier roman, à trouver des éditeurs.
Ouais. Et bien surtout, au bout d'un moment...
Et il n'est sans doute pas le seul.
Son éditeur ne le publiait même plus, Grasset. Non, c'était cruel. Non, parce que le Goncourt, c'est, faut quand même être très costaud pour supporter d'avoir ce prix. C'est qu'il y a très peu de gens qui l'aient eu, dont on a oublié que c'était le Goncourt de telle ou telle année. Il y a eu Félicien Marceau, il y a eu peut-être Orsena aussi. Mais en gros, Modiano aussi. Mais en gros, tous les autres, on se dit, tiens, ce gars-là, c'est vrai, il a eu le Goncourt, mais... Ça a été dramatique, ça. Ils s'en remettent pas, parce que vous êtes un vrai boulet pour l'éditeur. C'est que l'éditeur est sûr que vous ne vendrez jamais autant de livres que l'année du Goncourt. Donc c'est quand même embarrassant pour lui.
Alors parlons du Goncourt, justement. Ouais. Votre éditeur sexagénaire des éditions Les Épées...
Ah, vous dites ça comme si c'était dégoûtant. Sexagénaire.
Non, mais...
Moi, je trouve qu'éditeur est plus dégoûtant que sexagénaire.
Je vous cite. Pierre avait été idiot de déclarer au Point, l'hebdomadaire Le Point, ouais, je méprise le Goncourt et tutti quanti.
Ouais.
Cet homme est fou.
Oui, mais c'est assez marrant.
Irraisonnable.
Oui, mais à l'âge qu'il a, je crois qu'il n'a plus tellement à faire attention. Et c'était un peu un clin d'œil à Jacques Laurent, qui, avant d'avoir le Goncourt pour les bêtises dans les années 70, avait... déclaré, je méprise les prix littéraires. Donc c'est peut-être un moyen de les avoir.
Mais on sait qu'il y a des écrivains qui ont refusé des prix.
Très très peu. Julien Gracq.
Oui. Ouais. La littérature à l'estomac.
Ouais. Non, il avait eu le prix pour je ne sais plus quel... un roman, je ne sais plus lequel. Non,
je ne peux pas vous aider, Eric Noir, j'avoue.
Celui
là aussi.
Que j'admire le plus, c'est Sartre qui avait refusé le Nobel.
Et pourquoi l'admirez-vous dans ce refus du Nobel?
Parce qu'il a refusé un chèque d'une somme faramineuse. Et ça, je connais peu d'écrivains qui oseraient faire ça. Parce qu'on peut refuser un prix, par exemple le Goncourt, où le chèque doit être l'équivalent de 10 euros, mais les ventes, on ne les refuse pas. C'est curieux. Mais moi, je suis tout à fait pour que les prix littéraires continuent, ça ajoute...
Même si ça agite. On doute un peu de l'honnêteté des membres du jury.
Oui, mais de moins en
qui
moins.
Qui sont un peu au pied des éditeurs.
Oh, mais non. Beaucoup moins qu'avant, hélas. C'est que la corruption est en train de s'évanouir. La société est tellement judiciarisée maintenant que les avaloirs non honorés, les préfaces surpayées, maintenant, ce serait considéré comme des salaires fictifs. Moi, j'aimerais bien être corrompu, mais personne ne veut m'acheter aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de moralisation qui est tout à fait dommageable, parce que les prix littéraires et la vie littéraire, c'est fait pour être un peu comme ça, tangent, qu'il y ait des compromis, des erreurs, des combines, du copinage. Ça, c'est très très bien. Moi, quand j'entends les gens dire il faut qu'il y ait la parité, ceci, cela, des règles morales, mais non, on n'est pas à la sécurité sociale, ça n'appartient pas à l'État, les prix littéraires. Donc ce sont des bandes de copains ou de gens qui s'entendent plus ou moins bien, qui font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que comme c'est à la majorité absolue, ça ne donne pas forcément le résultat le plus convaincant, toujours.
Et les membres du jury, des jurys littéraires se retrouvent souvent au restaurant.
On vote souvent, au restaurant, on lit la bouche pleine.
Quelle gourmandise, quelle gourmandise. Bah.
Mais ça, je trouve ça très bien.
Mais selon vous, Eric Neuhoff, aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, quel est le prix littéraire le plus prestigieux en France? C'est le Goncourt?
C'est le Goncourt, toujours. Et les gens...
Et ça, c'est très français.
Oui, je crois que c'est le seul pays où ça existe encore. Hein. Aux États-Unis, ça n'a pas le droit de citer. Les prix, c'est zéro. En Angleterre, pareil. L'équivalent du Goncourt, là, le prix Strega en Italie, ça n'a aucun résultat. Mais cela dit, les chiffres de vente baissent énormément, hein, parce que les gens lisent moins et puis peut-être font moins confiance. Et en plus, rappelez-vous, à une époque, les résultats du concours étaient annoncés le lundi à 13h en ouverture du journal télévisé. On voyait Nourricier avec sa barbe avancer au milieu des flashs, s'approcher des micros et puis donner le nom du gagnant. Aujourd'hui, c'est une brève à 13h20 sans une seule image. Et ça, ça veut tout dire.
Ça aussi, très récemment, je refeuilletais un livre sur chez Talendier, sur les présidents de la République française et leur rapport au livre. Et je pense notamment aux photos officielles du général de Gaulle devant la bibliothèque, François Mitterrand. Bon, Emmanuel Macron a vraisemblablement, lui, changé le style. Il est devant une fenêtre, mais il y a trois livres, je crois, derrière lui. Il doit y avoir un Stendhal, un livre
Philippe,
de Gide.
Un Philippe Besson, peut-être.
Vous êtes moqueur.
Moqueur. C'est son Thury Ferrer, son portraitiste, mais son Saint-Simon.
Oui. Mais il a été récompensé, il a été nommé consul
aux États-Unis. Là, je crois que ça n'a pas pu se faire, heureusement, parce que c'était quand même scandaleux que Philippe Besson prennent la succession tardive de Romain Gary à Los Angeles. Il y a des limites quand même.
Mais par exemple, il y a eu des ministres écrivains. Je pense à Malraux, qui en plus venait de la gauche et que le général de Gaulle choisit comme ministre de la Culture.
C'était plus un écrivain devenu ministre.
Oui,
des ministres
c'est
devenus
vrai,
écrivains, entre guillemets, c'est par exemple Villepin.
Mais paraît-il, un bon poète. Dominique de Villepin.
Je vous laisse la responsabilité de cette affirmation.
Ah non, mais
la postérité s'en souviendra.
Jean-Christophe Ruffin, par exemple, a été nommé...
Oui, mais n'importe qui peut être nommé ambassadeur.
C'est vrai, ça vous plairait ?
Non.
Pourquoi donc ?
Parce qu'il faut être diplomate, et moi, ce n'est pas mon genre.
Ah oui.
Non, puis il faut le vouloir hein, aussi.
Mais alors, vous écrivez... Alors, justement, puisqu'on parle des hommes politiques et de leur rapport au livre, il y a quelques passages qui sont... Alors, j'aime bien, pas politiquement correct, il y a une audace... Alors, elle est sans doute un peu la vôtre aussi, mais vous la mettez dans les positions et surtout les propos de certains cocktails littéraires ou soirées littéraires chez Claire et Pierre ou ailleurs. Vous dites que finalement, on n'est pas prêt de voir un chef de gouvernement dans une librairie et vous dites que maintenant un ministre montre sa bite sur Instagram, ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs.
Bah oui, mais c'est quand même la réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'aurais pas osé.
On n'était pas obligé de le rappeler, c'était fâcheux.
Bah quoi.
Non, c'était drôle.
Peut-être qu'il fera pire, qu'il va écrire un livre.
Mais il y a quand même quelque chose de terriblement... affligeant. Alors, ça fait un peu vieux schnock, mais moi qui ai un peu plus de 50 ans...
Ne vous vantez pas, le vieux schnock, c'est moi. Non, mais je voulais que ce soit un livre drôle aussi.
Et c'est drôle. C'est drôle. Ce qui est très beau aussi, si Paris change, si le monde de l'édition change, ce qui reste immuable, c'est l'amour entre Claire et Pierre.
Oui, oui. Bah
ça ne bouge pas.
Ils sont mérovingiens, ils le restent contre vents et marées.
Alors que tout le monde divorce autour d'eux.
Oui, oui. C'est pour ça que c'est une vraie fiction, parce que c'est tellement improbable, un couple qui reste ensemble pendant des décennies, que je trouvais que c'était quelque chose de très romanesque à traiter, ça.
Mais... Ouais. La maison d'édition ne fonctionne pas aussi bien que leur couple, malheureusement.
Non. Mais ils continuent un peu à la porter à bout de bras. Et puis, il y a une certaine lassitude aussi de voir que tous les chiffres comptent, que les contrôles de l'URSSAF, tout ça, ça leur casse un peu les pieds. On devine bien qu'au départ, c'est Claire, l'épouse qui avait dû aider à financer la maison en question. Mais ça change tellement maintenant. Les agents, le poids de l'économie dans ce milieu-là, que ça leur casse un petit peu les pieds. Ils ont peut-être envie d'arrêter, à regret d'ailleurs, de faire autre chose et puis d'être ensemble, de continuer à être ensemble.
Un extrait du Wagon Livre du 26 février 2022 avec Éric Neuhoff qui venait de faire paraître aux éditions Albin Michel son roman intitulé « Rentrée littéraire ». Vous êtes bien sur l'antenne de Radion, vous écoutez Wagon Livre, votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après avec la chanteuse Olivia Ruiz.
C'est juste une petite chanson.
Une petite chanson d'amour.
Pour tous ceux qui sont pour,
qui y croient jusqu'au bout, qui se battent malgré tout.
C'est juste une petite chanson,
une chanson pour un soir, une chanson pleine d'espoir,
pour tout repeindre en clair, allumer les lumières.
C'est juste une petite chanson
qui viendra belle et grande
si on chante tous ensemble,
si on unit nos voix, si tu chantes avec moi.
La 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 la. La 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 la.
C'est juste une petite chanson.
La 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 la.
Une petite chanson d'amour.
La 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 la.
Pour tous ceux qui sont pour.
La 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 la.
C'est juste une petite chanson chante à l'unisson.
Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon.
C'est juste une petite chanson du cœur de la raison.
On rêvait de la lune.
C'est possible à l'unisson.
C'est juste une petite chanson,
un truc sans prétention.
Un petit bout de mélodie,
une caresse, un rire, un frisson.
C'est juste une petite chanson,
toute simple comme un bon choix.
Une petite chanson,
une chanson d'amour.
C'est juste une petite chanson, c'est juste une petite chanson, une petite chanson d'amour, une petite chanson d'amour, pour tous ceux qui sont pour,
pour tous ceux qui sont pour,
qui y croient jusqu'au bout, qui se battent malgré tout.
C'est juste une petite chanson,
c'est juste une petite chanson,
qui viendra belle et grande,
qui viendra belle et grande,
si on chante tous ensemble,
si on chante tous ensemble,
si on unit nos voix,
si tu chantes avec moi.
La 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 la.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Place cette fois à une auteure, compositrice et interprète d'origine espagnole. Je veux parler d'Olivia Ruiz, qui était l'invitée du Wagon Livre du 28 mai 2022 pour son dernier roman « Écoute la pluie tombée » paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Olivia Ruiz a grandi à Marseillette, dans le département de l'Aude. Trois de ses grands-parents ont fui la guerre civile mais n'en ont jamais parlé. Et de ce silence est né son premier roman « La commode au tiroir de couleurs » en 2020, qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Dans l'entretien, l'extrait d'entretien que nous allons vous proposer, Olivia Ruiz revient sur la corrida, ce monde particulier des toréadors, et je lui avais demandé de nous parler de la muleta et de nous donner son avis sur la corrida. S'agit-il d'un spectacle sauvage ou d'une tradition ? Olivia Ruiz.
Les toreros ont une petite mèche de cheveux à l'arrière du crâne, c'est grâce à ça qu'ils se reconnaissent entre eux. Et le jour où on décide de prendre sa retraite, on se coupe la coletta dans l'arène en public.
Alors, il y a débat aussi, et c'est très intéressant, sur pour ou contre ces spectacles, sur la pour ou contre la tauromachie. Je lis un extrait du roman. Ça, c'est Carmen qui dit « Pour nous, blesser un animal au nom de la noblesse ou de la beauté du geste est un acte de barbarie. » Et un peu plus loin, « Chez nous, les animaux sont des membres à part entière de la famille. On ne les utilise pas, on ne les saigne pas, on les chérit. » Alors, elle cite le beauceron, il y a le perroquet, mmh. Et puis il y a le chat négrito également. Et vous, Olivia Ruiz, comment vous vous positionnez par rapport à ces spectacles que certains condamnent
Je reste dans le questionnement. J'ai toujours été assez loin de ce débat parce que justement j'ai pas de réponse à cette question et il me laisse complètement perplexe et j'ai de la douleur à voir avoir l'animal dans l'arène. Donc je suis toujours restée très 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 loin de ça. Et c'est vrai que chez moi, les animaux, on les chérit, et c'est vrai qu'ils sont aussi des membres à part entière de la famille. Mais je voulais en tout cas reposer la question, et ça m'a obligée à énormément de recherches, tellement douloureuses. Très franchement, après avoir beaucoup lu sur les pour, après avoir beaucoup lu sur les contre, plutôt dans ces années-là, donc pas de nos jours, mais à cette époque, j'étais complètement chamboulée. Mais dès que je me suis retrouvée devant des images d'archives, c'était insupportable.
Et vous croyez qu'en Espagne, il y a une prise de conscience, il y a... Parce que...
Je sais qu'au Portugal, on ne tue pas les taureaux.
Ah oui.
Et pourtant, la corrida a une place de choix, je crois. Et c'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches. Depuis très longtemps, c'est une forme de corrida où le taureau est tauré, mais pas mis à mort.
Et alors Gilles, vous l'écrivez dans votre roman, j'en rappelle le titre, le nouveau roman d'Olivier Ruiz, Écoute la pluie tombée, chez Jean-Claude Lattès. Vous dites qu'il y a des vétérinaires qui droguent les taureaux parfois avant certains spectacles, ou qui leur mettent une substance sous les...
De l'essence de térébenthine, oui, en effet, c'est des choses que j'ai trouvées en faisant des recherches sur cette fameuse chose qu'est la tauromafia.
Alors, j'ai dit, en parlant de Carmen, l'héroïne de votre roman, qu'elle avait malheureusement connu la prison pour femmes en Espagne, à l'époque de la dictature de ce qu'elle appelle ce putain de dictateur, Franco, qui d'ailleurs lui-même aimait beaucoup la corrida.
C'est ce qui se dit.
Et en prison, Carmen rencontre alors une femme haute en couleur, c'est la Yaya. Et alors la Yaya, elle va réussir elle aussi à séduire Carmen, non pas pour des transports amoureux, pas du tout, mais elle l'amène vers l'esprit et vers la lecture.
Oui, la Yaya est une amoureuse du langage et des histoires. Et elle a pris... énormément d'années de prison, engagée contre le franquisme. Et elle s'est organisée un petit réseau pour réussir à faire entrer des livres dans la prison. Certains se débrouillent pour faire entrer de la drogue, de la nourriture. Ben, elle sait les livres. Et à chaque fois qu'une détenue craque, quand cette détenue en vaut la peine, comme Carmen en vaut la peine, quand elle sent une personne aimable derrière la détenue, la Yaya, elle la prend par la main avec les livres. Quand on n'a pas de capacité de voyager, quand on subit l'enfermement, c'est comme ça que m'est venue cette idée, qu'elle est la seule chose qui peut permettre de maintenir en vie.
Trouver un salut dans la littérature.
Et c'est comme ça que je me suis dit, mais moi, si j'avais pas d'écran pour regarder des films, qu'est-ce qui me resterait? Il me resterait la lecture, et ça pourrait me sauver de tout.
Olivier Ruiz, quel roman, quel livre vous ont profondément marqué à l'adolescence et encore aujourd'hui? Quels sont les noms, les
À l'adolescence, Un barrage contre le Pacifique m'avait complètement bouleversée. Quand j'étais enfant, c'était Charlie et la chocolaterie qui m'a fait entrer dans la lecture, et ça a été magnifique. Ça a été un moment génial, surtout quand on découvre qu'il y a l'ascenseur de verre, une sorte de suite. On se dit ouf. Plus tard, c'est Raymond Carver et ses nouvelles qui m'ont fascinée dans un style comme ça, tellement percutant, tellement immédiat et vif. J'adore Giono, j'adore André Gide. J'ai adoré lire dans la bibliothèque de mes parents La Femme du Boulanger, voilà, Pagnol évidemment, Antoine Blondin aussi par extension évidemment.
Et vous lisez, vous avez le temps de lire, parce que mener une carrière de chanteuse, faire la promotion de ses romans, c'est...
Ça se trouve, le temps de lire toujours, bien sûr.
Aussi.
Oui, voilà, c'est vrai depuis quelques années, j'écris plus que je ne lis, très franchement.
Et quelque part, pour revenir à Carmen en prison, la Yaya va être une sorte de mère de substitution. Elle va lui apporter ce que les parents restés en Espagne et qu'elle ne reverra jamais, elle va lui apporter soutien, réconfort, et elle lui demande aussi de croire en elle.
Alors, la Yaya va lui apporter du soutien, mais la Yaya va lui en mettre plein la tête aussi. Oui. La Yaya va la faire atterrir et lui dire « Mais tu vis sur la mauvaise planète, tu te racontes des histoires et la réalité des choses n'est pas là. » Elle lui fait un reset, une remise à zéro pour qu'elle puisse se reconstruire sur des bases solides en effectivement... En s'imprégnant de ces avertissements dont elle va la nourrir.
Alors il y a aussi un autre fléau qui va marquer durablement la vie de Carmen, c'est la drogue.
Oui, durablement, je ne sais pas. J'imagine que c'est 2-3 ans de sa vie. Mais bien sûr, il y a un moment donné où justement, je crois que la Yaya... ne mâche pas assez ses mots, peut-être face à la fragilité bien cachée de Carmen. Et c'est un ascenseur qui se décroche et qui descend 25 étages d'un coup. C'est pour ça qu'elle va se jeter dans ce refuge-là. Et d'autres péripéties qui vont l'amener jusqu'à l'infirmerie où elle trouvera ce qu'il faut.
Alors, à l'infirmerie, effectivement. Comme quoi, il se passe des choses en prison. Même dans une prison franquiste, il peut se passer des choses quand même.
Il se passe toujours des... De tout ce que j'ai lu sur le sujet
des gardiens,
et entendu, il y a vraiment une vie de sous-sol en prison. Une vie parallèle. Un réseau parallèle pour les téléphones portables, pour... On a vraiment une espèce de double réseau.
Et puis il y a cette cruauté sadique des gardiens qui parfois, pour faire souffrir une détenue, l'empêche de manger ou alors la fait arriver au réfectoire alors qu'il n'y a plus rien et il jubile à voir la colère et la frustration d'une femme qui n'aura pas son repas. Ça, c'est redoutable aussi là, ce que vous écrivez.
Oui,
c'est des éléments piochés de manière documentaire ou vous les inventez un peu?
Non, ça c'est plutôt inventé. Bah, pareil, on se projette, on se dit à quoi on se raccroche quand on se réveille en prison le matin, bon, de se raccrocher à la bouffe, évidemment. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on finit par imaginer ce type de scène.
Olivia Ruiz, à l'instant, pour son dernier roman « Écoute la pluie tombée » paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Il s'agit d'un extrait d'un wagon-livre diffusé le 28 mai 2022. Bien évidemment, si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez sur le site d'archives de l'émission via internet sur le www.yannickpetit.fr avec les références des ouvrages dont il est question, que ce soit les mémoires de Catherine Ney, les romans de Daniel Picouli ou d'Éric Neuhoff. Concernant le club des écrivains de Bourgogne, ce sera à Dijon, au Grand Hôtel de la Cloche, le lundi 19 décembre prochain. L'invité est Geoffrine Donadieu pour son roman « Chienne et louve » paru chez Gallimard, roman qui a été couronné du prix de Flore 2022. Et d'ailleurs, nous terminerons l'année 2022 avec Geoffrine Donadieu qui sera l'invité de votre wagon-livre le samedi 31 décembre prochain à 11h, toujours sur l'antenne de Radion. Et puis samedi prochain, c'est le 24 décembre, nous vous proposerons en musique, en chanson et en poésie, une émission spéciale Noël. Pour le moment, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, sur votre radio locale, sur Radion 90.5 dans le département de Lyon et aux quatre coins de la Bourgogne et de la France via internet sur le www.radion.fr. Au revoir.